Bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on explore nos campagnes, nos fermes et cette terre agricole censée nous nourrir. La population mondiale vient de passer la barre des 8 milliards d'individus, un chiffre qui impose de multiples problématiques sous fond de crise climatique. Et dans ce contexte, quel rôle peut jouer la technologie? Certains acteurs du secteur prônent une agritech, à savoir des outils numériques qui promettent d'agir mieux, de manière plus précise et de relancer l'attractivité du métier. D'autres espèrent reprendre la terre aux machines, pour citer le titre d'un manifeste, en développant une approche plus humaine et instinctive. Comment s'organiser le déploiement des nouvelles technologies dans le monde agricole? Les GAFAM investissent de plus en plus dans ce champ, plutôt éloigné de leur univers, même s'ils œuvrent là aussi à la récolte de données. Quels sont leurs objectifs et comment éviter certaines dérives? De nombreuses questions et 3 invités pour y répondre. À distance, depuis les Pyrénées-Atlantiques, Henri Biaspierret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur et aussi vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, en charge des questions numériques. Vous pourrez revenir sur les avancées des différentes technologies dans le secteur agricole, tout en évoquant les problématiques liées à la récolte de données et les promesses de protection qui viennent de la réglementation européenne. Merci d'être avec nous, tout comme Thomas Borel, à distance également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission scientifique chez l'Atelier Paysan, où vous animez l'Observatoire des technologies agricoles. Vous militez pour la généralisation d'une agroécologie paysanne en construisant un argumentaire critique face aux pratiques du suréquipement. Pour vous, l'agriculture numérique perpétue un modèle productiviste à bout de souffle. Et le souffle, nous le gardons pour accueillir en studio Jeanne-Louis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez tout juste des États-Unis après une année de recherche à l'université Cornell, et vous êtes docteur en sociologie, chercheuse à l'IRISO Paris-Dauphine, et vous pourrez définir l'agriculture de précision et les dispositifs de l'agritech en évoquant le rôle des industriels et des acteurs publics dans la promotion de ces nouveaux outils. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, qui nous parlera de la 6e extinction. Mais d'ici là, restez tout feu ouvert, à l'antenne ou en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Le meilleur des mondes sur l'agri France Culture, c'est parti.
On va parler de ce visage encore finalement un peu méconnu de l'agriculture de demain.
C'est l'inauguration du salon de la machine agricole, le deuxième de l'après-guerre. On y relèvera la généralisation de la mécanisation et les progrès de la motorisation agricole.
Oui, alors tout à fait, chez GeoWatch Labs, nous développons un système de suivi des saisons agricoles entièrement basé sur de l'analyse satellitaire.
On va aussi avoir beaucoup d'acteurs qui vont proposer des solutions à l'agriculteur pour optimiser son temps, optimiser sa consommation de gasoil, optimiser le travail au quotidien, le travail de ses salariés.
Une fois la profondeur de l'outil réglée, le robot gratte la terre pour retirer racines et mauvaises herbes.
On a mis quoi on a peut-être passé 20 minutes. À la main, je mettrai certainement 2 ou 3 semaines pour vraiment tout faire comme lui, quoi.
La robotisation peut apporter ça. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut aider. Et j'espère que ça attirera des jeunes aujourd'hui dans nos métiers, quoi.
Plus vous mettez de machines, moins vous avez besoin d'hommes. Et demain, si ces machines ne sont plus conduites par des hommes, alors vous aurez encore moins besoin d'hommes.
Mais on a encore besoin d'hommes et de femmes et d'humains derrière des micros pour continuer à faire des émissions de radio, notamment pour éclairer justement l'agri-tech, puisque c'est le nom marketing, le nom sectoriel de ces différentes innovations technologiques. On va d'ailleurs commencer par un petit exercice de définition nécessaire pour nos auditeurs et auditrices. Henri Biaspierret, qu'est-ce que ça recouvre ce terme d'agri-tech?
Ça recouvre tout le secteur qui utilise la robotique, tout le secteur de la collecte des données, l'intelligence artificielle qui permet avec ces données d'accompagner les actes de l'homme, de l'agriculteur en l'occurrence, et toute l'agriculture de précision qui permet à des outils, comme ça vient d'être indiqué dans le petit sujet, on règle un outil avec des capteurs, avec des lecteurs optiques, et on fait un travail bien meilleur que ne pourrait le faire, y compris la main de l'homme ou l'œil de l'homme.
Alors, vous avez cité justement agriculture de précision, ça tombe bien, Jeanne-Louis, ça fait l'objet de vos recherches, cette agriculture de précision en partie. Comment on peut la définir, aller plus précisément, cette agriculture de précision ?
En fait, déjà, l'agriculture de précision, pour la petite histoire, donc c'est un terme qui est né aux États-Unis dans les années 80 par des partenariats entre donc des universitaires et des chercheurs dans les universités américaines qui se sont associés avec des tractoristes pour utiliser du coup les nouvelles technologies qui étaient alors émergentes dans les années 80.
Tractoristes, pardon.
Le secteur du machinisme agricole, les vendeurs de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Et donc, ces scientifiques-là ont forgé ce terme d'agriculture de précision pour qualifier en fait l'emploi de ces technologies numériques en agriculture afin de mieux adapter les décisions concernant l'utilisation notamment des engrais et des produits phytosanitaires en adaptant ces décisions-là de production au plus près des besoins des plantes. D'où le terme de précision permise par ces technologies-là.
Oui, précision, c'est-à-dire qu'au lieu d'arroser justement sur des produits qui peuvent être des produits sensibles, par la technologie, on va pouvoir se permettre de cibler plus distinctement là où il faut agir. C'est la promesse en tout cas de l'outil et du dispositif.
Tout à fait. Donc c'est vraiment la promesse de la précision par le numérique. C'est résumé dans le slogan inventé par ces chercheurs-là qui est « la bonne dose au bon endroit au bon moment ». Et donc les données numériques permettraient, et l'emploi du conditionnel est ici important, puisqu'on parle aussi de promesses. L'emploi de ces technologies-là permettrait de mieux ajuster les pratiques de production à la spécificité des cultures, des écosystèmes et des fermes.
Alors, Henri Biespéré, avant de donner la parole à Thomas Borel, je le disais en préambule, vous êtes vice-président à la FNSEA, mais aussi agriculteur. Est-ce que vous utilisez, vous, des outils qu'on pourrait désigner comme étant des outils de l'agritech ?
Oui, bien sûr, ça fait partie aujourd'hui du quotidien des exploitations agricoles. Je n'ai pas une traite robotisée sur mon exploitation, c'est une salle de traite avec la main de l'homme qui branche les machines, mais il y a en permanence un enregistrement des données. Et en fonction du lait qui est produit par chaque vache, j'ajuste l'alimentation de chacune d'entre elles. Tout ça est enregistré, et sa production et l'alimentation produite. Et je peux ainsi tracer la fabrication de mon lait et donner ces données-là aux fabricants de fromage qui m'achètent le lait. Ce qui fait que le consommateur pourrait aussi vérifier que j'ai conduit mon troupeau dans les bonnes règles, en tout cas dans celles qui ont été indiquées. Donc on a dans le quotidien, pour nous aider, pour nous accompagner, la robotique, la capture de données, l'interprétation de données qui nous permettent d'ajuster au mieux dans notre métier la conduite du troupeau.
Là, justement, vous avez cité le terme de traçabilité qui fait partie, une nouvelle fois, des avantages, du moins annoncés et affichés de ces différentes technologies. Thomas Borel, vous qui êtes du côté de l'atelier paysan, vous êtes pas vraiment agritech, du moins vous vous opposez en partie, enfin en tout cas vous critiquez l'ensemble de ces dispositifs, puisque vous êtes davantage agro-écologue, puisque c'est bien l'agro-écologie qui est prônée au sein de chez l'atelier paysan. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement votre pensée, votre réflexion ?
Disons que l'atelier paysan, qui est une coopérative détenue majoritairement en fait par des paysans et des paysannes, fabrique et ou plus exactement forme à fabriquer des outils agricoles, mais effectivement des outils qui ne sont pas chargés d'électronique, qui ne sont pas chargés d'une certaine sophistication qui rendrait trop compliqué leur utilisation ou en tout cas leur évolution, leur réparation. Et donc nous, on parle de technologies appropriées de notre côté sur ce qu'on peut promouvoir. Elles sont appropriées à des besoins agronomiques dans une approche d'agroécologie et puis appropriées par les personnes qui les construisent et qui peuvent les réparer, les faire évoluer et qui peuvent finalement adapter l'outil au modèle agronomique, aux contraintes de leur terroir, à ce qu'elles ont envie, à la manière dont elles ont envie par exemple de cultiver leur parcelle, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire d'être dépendant de ce qui est sur le marché. Et donc il y a effectivement une approche assez opposée. Par contre, la complexité et la sophistication, elle est dans le savoir-faire paysan qui va avec. C'est-à-dire qu'au lieu de l'enfermer dans des algorithmes, nous, on promeut un savoir-faire paysan et on contribue à colporter ce savoir-faire paysan.
Pour bien comprendre, vous, les risques que vous voyez avec un usage peut-être, on va dire, irraisonné dans le sens où pas forcément, on va dire, systématique des outils technologiques, c'est une perte d'autonomie, c'est ça, du savoir-faire paysan ?
La dimension d'autonomie, effectivement, qu'on met en avant, qui n'est pas à prendre au sens de l'autarcie ou de l'indépendance totale sur sa ferme, c'est l'idée d'une autonomie collective, c'est l'idée de choisir ses dépendances. Et donc, on ne peut pas être complètement indépendant. Donc, effectivement, nous-mêmes, nous utilisons des outils et un certain nombre de technologies et des ordinateurs, etc., dans notre activité. Les paysans et paysannes avec qui on travaille aussi. Mais c'est à chaque fois, à chaque choix technique, de se poser la question de quelle va être qu'est-ce que ça va conditionner finalement à la suite de ça. Est-ce qu'il va falloir ensuite avoir un nouveau logiciel, avoir des systèmes de mise à jour, avoir changer son autre matériel parce que il n'est pas compatible avec le dernier matériel high-tech qu'on vient de se procurer. Et donc l'idée d'autonomie, elle est effectivement par rapport à ce secteur de l'agro-fourniture qui fournit un certain nombre de solutions clés en main aux agriculteurs et agricultrices, et qui, en fait, les prive d'une partie des choix techniques sur leur ferme.
Henri Biespéré, vous qui, je le disais, vous occupez des questions numériques au sein de la FNSEA, qui êtes vous-même agriculteur, les remarques qui viennent d'être formulées par Thomas Borel et les limites peut-être dans la perte d'autonomie et puis même d'avoir la main sur sa machine, de ne pas pouvoir la réparer tout seul, d'avoir peut-être aussi des données un peu opaques qui leur échappent, est-ce que vous les comprenez, vous les entendez, ces remarques ?
Alors, une précision, que ce soit l'agriculture qui utilise les objets connectés et le numérique, ou l'agriculture qui utilise un matériel qui serait autoconstruit et autogéré et réparable, conduisent toutes à faire de l'agroécologie. Là où on peut s'attendre, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans agroécologie, c'est-à-dire une agriculture qui respecte l'environnement, tout autant qu'elle est économiquement viable et qu'elle respecte les standards sociaux que l'on a dans notre pays. Donc là, l'une n'est pas tournée vers l'agroécologie et l'autre vers je ne sais quelle agriculture qui a peut-être été décriée à un certain moment, mais qui est celle du passé. On est tous aujourd'hui tournés vers une meilleure agriculture et vers l'agroécologie. C'est un mot qui est repris par l'ensemble. Effectivement, l'agriculteur qui a un tracteur avec les équipements électroniques est dépendant de celui qui lui a vendu. Inutile de sortir une caisse à outils quand vous tombez en panne. Vous sortez le téléphone, vous appelez les réparateurs. Souvent, il peut le faire à distance grâce aux antennes et à la lecture qu'il peut faire sur son propre écran d'ordinateur de la panne du tracteur. Mais c'est comme quand vous aviez autrefois le téléphone avec le vieux cadran. Vous défaisiez quatre vis et vous pouviez regarder s'il y avait un fil qui s'était un peu décroché et qu'on pouvait resserrer. Et aujourd'hui, avec un smartphone, forcément, le jour où vous êtes en panne, vous êtes obligé d'aller voir un réparateur. D'ailleurs, certaines ne peuvent même pas s'ouvrir. Donc, on est un peu pareil. Après, le service rendu par le smartphone aujourd'hui, je crois que beaucoup le reconnaissent quand même. Il y a beaucoup plus d'utilisation. On peut l'utiliser un peu partout. Donc, on est dépendant, effectivement, de celui qui l'a vendu. Par contre, on retrouve une forme d'autonomie, c'est-à-dire on est moins pris par des tâches répétitives, quotidiennes, pénibles, et on se concentre sur la gestion de la culture, sur la gestion des intrants à mettre, sur les dates de récolte, sur les volumes de stockage à prévoir en fonction des potentiels de récolte. Donc on fait un vrai métier, du coup, de la noblesse du métier d'agriculteur, qui n'est pas celle d'un mécanicien pour monter une machine.
Oui, on revient effectivement dans la notion bénéfice-risque, hein, qui est celle dans l'usage de nouvelles technologies. À vous entendre, Henri Biespéré, c'est pour vous, il y a bien plus d'avantages que de limites ou que de risques à utiliser donc ces objets technologiques. Jeanne, oui, vous qui avez fait beaucoup d'entretiens sur le terrain aussi avec des agriculteurs, le secteur, est-ce qu'il est majoritairement favorable au déploiement de ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'il y a un scepticisme ? Sachant que c'est une profession qui a été depuis assez longtemps très informatisée, c'est-à-dire que finalement la technique, la technologie, ça fait longtemps qu'elle est du côté des agriculteurs et des paysans.
Tout à fait, c'est un peu c'est un peu un résultat un peu contre-intuitif par rapport à l'idée un peu que les gens peuvent se faire de l'agriculture, mais c'est vrai que le secteur agricole en tant que secteur professionnel est un des secteurs qui a été informatisé le plus tôt, notamment à partir des années 70 avec les premiers logiciels de gestion qui sont diffusés aux exploitations agricoles afin d'informatiser la comptabilité et la gestion donc de ces exploitations-là. Après, ce qui est intéressant de constater, c'est aussi quand même au-delà de la promesse, encore une fois, de regarder un peu les processus d'adoption et de regarder quelles technologies sont effectivement vendues et utilisées par les agriculteurs en France aujourd'hui, et notamment les technologies les plus répandues sur le marché actuellement, toutes productions confondues. Il s'agit en fait de GPS dans les tracteurs pour aider à la conduite et, encore une fois, de ces logiciels de gestion parcellaire donc, qui permettent d'informatiser la saisie des données à propos à la fois des pratiques agricoles, mais aussi de la comptabilité des entreprises. Et notamment, M. Biaspéré l'a vraiment bien expliqué à propos des questions de traçabilité. Et donc, on est vraiment sur ces problématiques-là, sur le terrain, au niveau des usages, à la fois aider à la conduite des tracteurs et aider au respect des réglementations, à la fois de l'administration, des administrations publiques, mais aussi de la traçabilité requise par tous les autres acteurs des filières agricoles et agroalimentaires.
Donc, c'est une population plutôt technophile.
Comme dans tout secteur professionnel,
c'est compliqué de généraliser, mais oui. Mais quelle est votre sensation, votre intuition, et puis le résultat aussi des entretiens que vous avez menés?
Il y a vraiment des phénomènes d'adoption très inégales selon les exploitations, et en fait, vraiment, ces processus d'informatisation, ils touchent principalement les exploitations les mieux équipées, les mieux en capacité à la fois en termes de ressources financières et d'accompagnement technique et de conseils. Donc les exploitations les mieux dotées en fait sont aussi les plus équipées, mais par contre, voilà, encore une fois, pour reboucler avec ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est vrai qu'il y a une image de modernité qui est associée à ces technologies et une forme de revalorisation aussi de la profession au niveau des usagers qui utilisent ces outils-là.
Thomas Borel, vous qui avez aussi analysé ces thématiques-là, il y a un moment clé où on a pu voir justement l'accélération peut-être ou le déploiement de la technologie dans le monde agricole. Vous nous dites que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall, c'est ça? Il y a une imbrication aussi un petit peu des outils militaires qui ont pu être transformés en outils commerciaux pour le secteur agricole?
Il y a effectivement plusieurs processus en fait qui se rejoignent. Il y a le fait qu'il y a une industrie de guerre qu'il faut recycler vers d'autres débouchés. Il y a cette idée aussi, ce besoin au lendemain immédiat de la guerre de nourrir la population. Et puis il y a rapidement un imaginaire qui s'installe et qui est véhiculé par le terme même de modernisation. C'est l'idée que la modernité irait dans un seul sens, inéluctable, et que ça serait porteur de progrès. Et tous ces termes-là sont utilisés de manière souvent interchangeable pour désigner le processus finalement de moto-mécanisation, c'est-à-dire de mécanisation motorisée de l'agriculture avec de plus en plus de tracteurs, mais aussi d'autres outils, soit tractés, soit autoportés. Et puis très vite qui va s'accompagner aussi de l'utilisation d'engrais de synthèse et de pesticides. Et ces phénomènes vont de pair et créent pour le coup une énorme dépendance énergétique, puisque il faut du carburant pour les machines, mais aussi il faut des énergies fossiles pour fabriquer des engrais de synthèse et dans une moindre proportion pour des pesticides. Ceci dit, ça c'est un peu tout ce processus qui prend forme et qui va s'accélérer dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qu'on continue aujourd'hui, auquel on continue d'assister, avec toujours ce vocabulaire de modernisation, de progrès, et cette idée que ça serait dans l'intérêt même des agriculteurs. Et il ne s'agit pas de dire que tout, évidemment, serait acheté, il ne s'agit pas de dire qu'on voudrait revenir dans je ne sais quel passé, il faut plutôt interroger finalement d'autres formes de dépendance, des conséquences environnementales catastrophique, des conséquences sociales, un isolement aussi dans la profession, et puis finalement les conséquences de cette agriculture industrielle qui s'est mise en place, on les connaît au niveau écologique. Et tout à l'heure, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Biespéré. C'est évident que tout le monde cherche à avoir une meilleure agriculture, et il y a cette revendication un peu partagée d'agroécologie, mais tout dépend ce qu'on met derrière l'idée d'agroécologie. Et aujourd'hui,
pour vous, pardon, l'agroécologie, Thomas Borel, excusez-moi, pour vous, l'agroécologie, pour le résumer simplement.
L'agroécologie, c'est le fait de s'appuyer sur les équilibres écologiques de l'agro-système cultivé. C'est le fait, finalement, d'avoir une approche en termes de système. À l'inverse, l'agriculture qu'on décrit comme conventionnelle, ou qu'il faudrait décrire souvent comme une agriculture chimique, est en fait une agriculture qui va traiter des symptômes, qui va chercher à résoudre des problèmes ponctuellement sans avoir cette approche des grands équilibres. Et c'est là une différence d'approche. Et dans ce qui se produit aujourd'hui en termes de technologie, de cette agritech, on est dans le prolongement de ce système. Et finalement, on a des technologies qui viennent sauver un système d'agriculture industrielle et d'agriculture chimique en offrant le moyen de continuer à utiliser des pesticides ou des engrais de synthèse, dont on sait à quel point ils sont décriés aujourd'hui, mais tout simplement en nous disant ça va permettre d'en utiliser moins, mais sans chercher à modifier radicalement l'approche. Ce qui est quand même quelque chose dont on a besoin à la fois en termes d'impact écologique, d'impact sanitaire en premier lieu d'ailleurs pour les agriculteurs, et puis aussi en termes simplement des ressources nécessaires pour tout ça, parce qu'on a des ressources limitées dans lesquelles on est en train de puiser pour fabriquer tout ça, et dans quelques temps il y aura une tension qui va s'accroître.
Alors justement, on va revenir dans un instant sur l'impact environnemental, puisque c'est une question cruciale par rapport à l'usage de ces technologies, et c'est un point de divergence aussi, mais pour rebondir justement sur l'imaginaire du progrès, je vous propose d'écouter l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Cette révolution, cette troisième révolution agricole, cette innovation, elle est au cœur de l'ADN. Et donc on est une puissance d'innovation, on est une puissance agricole. Il faut absolument que les deux mondes se rencontrent au bénéfice des uns et des autres. Et c'est ça qui est en train de se passer. Nous n'avons pas d'autre choix que de croire en ce progrès qui est l'innovation, le numérique, la robotique, la génétique, le biocontrôle, cette troisième révolution agricole, celle du vivant et de la connaissance. La French Agritech, maintenant, c'est une réalité. On s'est mis d'accord avec des points de non-retour sur la relation entre le monde de l'agritech et les pouvoirs publics. Faites vivre cette troisième révolution agricole. Faites-la vivre.
Troisième révolution agricole, donc les propos de Julien de Normandie dans un salon en s'adressant évidemment aux acteurs du marché, aux acteurs de l'agritech, Jeanne-Louis.
Oui, tout à fait. C'est assez intéressant de voir la façon dont ces technologies numériques entrent en fait et sont intégrées aux politiques publiques actuelles. Et c'est souvent la phrase « nous n'avons pas d'autre choix que de défendre le progrès et la modernité ». C'est quand même une façon de refermer la boîte justement du débat public sur quelle est la façon dont on veut mettre en place cette transition environnementale du secteur agricole.
Alors, transition environnementale, Thomas Borel a parlé de l'impact justement de cette nouvelle technologie. Là, on voit qu'il y a un petit point de divergence, Henri Biespéré, parce que ce que vous nous dites, c'est que vous utilisez ces outils ou vous prenez l'usage de ces outils justement pour qu'ils soient mieux adaptés par rapport à la crise et au dérèglement climatique, que ce soit des outils donc de précision, d'utiliser plus juste. Et en même temps, Thomas Borel nous dit que ces outils, ils ont aussi un coût, qu'ils ont un impact sur la planète, donc on ne se rend pas bien compte de savoir si ces outils sont plutôt bons ou mauvais finalement.
Ce que je trouve dommage, c'est de diaboliser ces outils en disant qu'ils ne servent que à maintenir et à prolonger le modèle actuel d'agriculture à base de chimique, d'intensification, etc. Pour utiliser des produits de biocontrôle, donc biosourcés, donc pas chimiques, on a aussi besoin d'agriculture de précision, toujours pareil, pour économiser, pour mettre la bonne dose, et surtout pour la mettre au bon moment. Quand il y a des attaques d'insectes, comme avec ce climat qui change, tiens, je discutais cet après-midi avec mon associé sur des graines de colza qu'on a semées, habituellement à cette saison-ci où il gèle, on ne voit pas de pucerons. Il a été dans les champs cet après-midi, il a trouvé du puceron. Donc il faudra d'une manière ou d'une autre intervenir, pas forcément avec un produit chimique, mais il faudra intervenir au bon moment pour arriver à maîtriser cette infection. Alors bon, le temps qui se refroidit risque de faire le travail à notre place. Donc on n'a pas utilisé. On a regardé les données météo, on a regardé les températures qu'il allait faire, on a dit normalement ça devrait se maîtriser tout seul. Donc c'est là que la technologie accompagne la décision de l'agriculteur, mais pas pour prolonger le modèle à base de toujours plus de chimiques, de toujours plus d'engrais. Les efforts que doit faire l'agriculture pour produire plus, et ça je le dis, pour produire plus, mais pour produire mieux, ne dépendent pas, enfin, l'évolution de notre modèle agricole est de toute manière nécessaire, y compris pour s'adapter au changement climatique. Et il sera accompagné, alors je suis d'accord avec Madame Houy, c'est inévitable d'aller vers l'agriculture technologique, mais cette agriculture-là accompagnera la progression, le virage que prend l'agriculture, encore une fois, et en donnant des mesures toujours plus précises pour être toujours plus pertinent. On discutait aussi avec une start-up qui fait de la prédiction météo pour l'avenir. C'est important quand on construit un projet d'agriculteur aujourd'hui de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, voilà le climat qui sera sur ma commune. Pas le climat planétaire, sur ma commune. J'aurai des températures qui font que les cultures que je fais aujourd'hui, je ne pourrai pas continuer à les faire. Parce que je suis limité en accès à l'eau, parce que, voilà, pour différentes raisons. Et donc ces outils-là, technologiques, vont m'aider à prendre mes décisions d'agriculteur, d'entrepreneur aujourd'hui pour être encore là demain et dans 5 ans. Donc c'est pas du tout, ça n'impacte pas, ça ne dit pas parce que vous utilisez la technologie, vous êtes sur l'agriculture productiviste, vous voulez toujours plus grand, plus fort, etc. Non, le choix de l'agriculteur peut être de garder une agriculture de taille raisonnable et quand même de prendre les outils technologiques parce qu'ils l'aident à bon escient, au quotidien, à prendre ses décisions. Donc l'un n'est pas lié à l'autre. Et le numérique accompagnera de toute manière l'agriculture. Le consommateur attend la traçabilité. Donc forcément, l'agriculteur, il devra pas seulement faire des promesses, mais apporter des preuves qu'il tient ses promesses. Et ces preuves-là, elles sont apportées par, justement, toutes les données enregistrées, par la blockchain qui est inviolable, qui va dire au consommateur, voilà le produit, quelle est sa traçabilité, qu'est-ce qu'il a eu tout au long de sa vie, et ce que vous avez dans l'assiette.
Juste une précision avant de donner la parole à Thomas Borel, qui, j'imagine, veut bien réagir. On n'est pas là, Henri Biaspéré, pour diaboliser hein, les nouvelles technologies. On est juste là pour poser des questions, et essayer de comprendre, effectivement, quelles sont les répercussions de ces outils, quelles sont les promesses, et quelle est une forme de réalité en confrontant justement différents points de vue. Thomas Borel.
Oui, juste peut-être pour préciser pourquoi j'évoquais le fait que c'était au secours finalement d'un modèle industriel, c'est parce qu'effectivement on cite toujours les produits de biocontrôle comme un exemple un petit peu vertueux, mais l'usage qui est documenté déjà de l'utilisation d'un certain nombre de ces technologies, eh bien de continuer aussi avec les autres produits. Donc on réduit des quantités, on réduit les doses, mais encore une fois sans changer de modèle, et notamment avec l'idée même de l'agriculture de précision, dont il a été question tout à l'heure, où on nous parle de modulation. On va moduler, au lieu de mettre le même traitement à la parcelle, on va moduler à l'intérieur des parcelles. On nous disait au mètre carré, à présent on nous dit au centimètre carré. Il y a toute une promesse qui est faite que ça va réduire de 50, de 60, 70% les dosages. C'est même des promesses qui sont reprises parfois par les ministres de l'Agriculture, alors qu'il n'y a aucune contre-expertise publique à ce niveau-là. Mais donc, on est bien dans ce prolongement en termes d'approche agronomique, et encore une fois, dans les usages qui sont déjà documentés. Et puis, on a cette idée qu'en ayant de plus en plus de données, on va avoir une compréhension plus fine d'un système. Mais une masse de données ne fait pas une compréhension fine d'un système, surtout si ce système, finalement, ne cesse de grossir et qu'on a des fermes de plus en plus grandes qui s'agrandissent, qui se concentrent, et le matériel a une, par le coût cette fois économique, a une responsabilité très grande là-dedans. Et donc, on voit, nous, on documente par les chiffres, les statistiques même publiques, la façon dont le matériel a impacté l'endettement des agriculteurs, a créé en gros une capitalisation des fermes, un endettement qui en fait disparaître certains pendant leur activité, une capitalisation qui fait qu'aujourd'hui une ferme n'est plus transmissible. Un jeune ne peut pas reprendre une ferme dans bien des cas parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et donc vous avez des fermes comme ça qui sont avalées par d'autres fermes à côté et qui grossissent. Or, pour voir si on a une attaque de pucerons sur ces parcelles, si on a des petites fermes, c'est aussi un moyen, simplement par l'observation humaine, d'adapter des interventions, et on n'a pas besoin d'une masse de données pour avoir la compréhension fine.
Donc, oui, mais là effectivement vous parlez de petites fermes et de petites exploitations, sauf qu'il y a des petites exploitations, des moyennes et des grandes, et qu'il faut sans doute avoir aussi pouvoir souvent gérer et rendre ces différentes tailles fonctionnelles.
Il y a des fermes de plus en plus grandes. Ce qui est différent, c'est qu'on a en 10 ans encore perdu 100 000 fermes en France. On a un plan social silencieux qui a cours en France, et la question du coût en matériel n'est pas innocente là-dedans. On a le coût machine de la ferme France, en 30 ans, il a augmenté de 35%. C'est-à-dire que c'est autant d'argent qui rentre dans les caisses des agriculteurs quand ils vendent leur production, et qui ressort aussitôt pour aller vers finalement le remboursement d'un certain nombre de matériels. Et donc ça, c'est en augmentation constante, indépendamment du fait qu'on a de moins en moins de paysans. Enfin, indépendamment dans le sens, cette augmentation de 35%, elle est bien à l'échelle de la ferme France. Si vous le ramenez par paysan, là, c'est encore plus important, parce qu'évidemment, on a beaucoup moins de paysans aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, on a des fermes de plus en plus grandes, et on va continuer ce processus si on va vers des machines qui coûtent de plus en plus cher à l'acquisition, et des fermes qui sont de plus en plus difficiles à transmettre.
Effectivement. On comprend bien le phénomène de concentration, et donc, quelque part, de gigantisme, qui implique d'autant plus d'objets technologiques pour pouvoir permettre une gestion et donc une transmission difficile. La discussion est passionnante, on va la poursuivre, mais on va tout de suite partir en musique avec Benabar, qui nous envoie, qui nous emmène, lui, à la campagne. Benabar, dans le meilleur des mondes.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. Campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. À la montagne, y'a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson, je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche soir. À la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard. d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à sacrer le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux. Le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
Bruno Nicolini, alias Benabar, dans Le Meilleur des Mondes, avec ce titre À la campagne. On en sort un instant de la campagne pour repartir du côté des nouvelles du Meilleur des Mondes. Et oui, c'est l'heure du journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Twitter va-t-il mourir? Voilà la grande question qui occupe les utilisateurs de la plateforme depuis 24 heures. Les tweetos alternent colère et nostalgie, évoquant les meilleurs moments sur leur réseau, tout en imaginant des alternatives plus ou moins réalistes, avec des migrations vers Mastodon, LinkedIn ou encore Facebook, pourtant déjà en mort cérébrale chez les jeunes utilisateurs. Comme d'habitude, Elon Musk se réjouit de ce chaos et s'en amuse sur Twitter. L'objet de l'inquiétude, c'est le départ massif d'employés qui n'ont pas voulu se résoudre au chantage imposé par le milliardaire, à savoir se battre bec et ongle pour l'entreprise en ne comptant plus ses heures ou accepter 3 mois d'indemnité et quitter le navire. Ce coup de pression, loin de susciter l'engagement, a plutôt encouragé l'abandon. Alors entre les licenciements et les départs volontaires d'ingénieurs, le risque de voir l'interface et le système tomber en panne est fort. Entre-temps, une vidéoprojection clandestine s'affiche sur la façade du siège social en dénonçant les pratiques dictatoriales d'Elon Musk en l'affublant de tous les noms d'oiseaux. Personne ne sait, comme depuis le début de ce feuilleton, comment cette histoire va se terminer. Mais en imaginant la fin de Twitter, qui à mon sens n'est pas prête d'arriver, on réfléchit à la place que ce réseau occupe dans nos vies. Enfin pour certains, journalistes, politiques, militants, entrepreneurs. Une place bien trop importante dans le débat public, une situation de dépendance et de quasi-monopole qui profite évidemment à Elon Musk, qui prend un malin plaisir avec son oiseau à nous retenir en cage.
Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Et ce n'est un secret pour personne. Depuis la pandémie, le secteur du cinéma est en souffrance, les salles se vident et les consommateurs préfèrent rester chez eux à moindre coût devant les plateformes de streaming plutôt que de vivre la communion dans les salles obscures. La chaîne de cinéma AMC aux États-Unis a eu une idée pour la moins surprenante, faire d'une partie de ses salles des espaces de réunion Zoom. Oui, merci au CNUM d'avoir repéré cette information. 17 cinémas aux États-Unis vont donc se transformer en Zoom géant. C'est des locations de salles de cinéma pour faire du Zoom et faire valoir donc ce nouveau service. AMC prône la qualité de son système son, le confort de ses sièges et évidemment son écran géant pour afficher les centaines de visio-collaborateurs à travers le monde. À noter que l'on pourra également vous proposer boissons et pop-corn. Faire d'une salle de cinéma une salle de réunion Zoom, c'est déjà en soi les prémices d'un scénario dystopique, celui de dévoiement du 7e art. Le scénario en poche, il n'y aura plus qu'à tourner ce film cauchemardesque que l'on diffusera, bah tiens, dans les séminaires Zoom.
Popcorn, esquimaux, oreiller, livre.
Excusez-moi, il dure combien de temps le film?
2h16.
Je vais prendre l'oreiller et une couverture.
Et on termine par une menace qui guette les îles Tuvalu, qui sont situées dans le Pacifique. C'est l'un des plus petits états du monde, qui risque à la fin du siècle d'être avalé par les eaux. Une crainte d'engloutissement qui a poussé le ministre des Affaires étrangères à réagir en proposant de répliquer le pays, à savoir ses monuments, son administration et sa culture, de le répliquer dans le métavers. Oui, vous savez, ce monde immersif qui, par son activité énergivore, participe au dérèglement climatique qui lui-même provoque la montée des eaux et menace donc aujourd'hui les Tuvalu. De l'immersif à la grande immersion, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans le meilleur des mondes. Et nous poursuivons notre discussion sur la manière de repenser la technologie dans le monde agricole. Nous sommes avec Henri Biasperé, qui est vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles à FNSEA en charge des questions numériques, avec Thomas Borel, chargé de mission scientifique chez l'Atelier Paysan, et avec Jeanne Huy, docteur en sociologie et chercheuse à l'IRISO de Paris Dauphine. Un point aussi, alors Thomas Borel l'a expliqué en disant qu'il y avait un phénomène de concentration donc par ces exploitations qui sont de plus en plus grandes. Pourtant, lorsqu'on parle des nouvelles technologies, il y a encore une fois ici une promesse, Henri Biasperé, une promesse qui est celle de la rendre justement plus attractive, puisqu'il y a un vieillissement évidemment de la population agricole, comme si ces objets technologiques pouvaient davantage faire venir les jeunes. Vous partagez justement cet espoir et cette envie ?
Pouvait faire revenir les jeunes, j'en sais rien. En tout cas, l'agriculture à un moment était décriée comme étant un métier avec des actes pénibles. Voilà, on dit souvent la terre est basse, des actes répétitifs, la traite des animaux le matin et le soir, la cueillette des fruits ou des légumes. Donc toutes ces tâches qui n'étaient pas quand même très très agréables. Alors que partout, on parle de loisirs, on parle de prendre du temps, on parle de se libérer suffisamment tôt le soir. Et donc là, les technologies et la robotisation d'un certain nombre de tâches répétitives et pénibles fait que pour certains, il y a un nouvel attrait pour ces métiers-là. De la même manière que mais voilà, toute cette jeune génération qui naît avec quasiment un smartphone à la main, est très attiré aussi par le fait de pouvoir gérer à distance la vente des céréales, de regarder l'évolution de la collecte de lait ou du poids des animaux. Enfin, bref, ça accompagne un métier, ça le rend beaucoup plus moderne aux yeux d'une jeune génération qui est quand même qui a beaucoup d'appétit quand même pour ces nouvelles technologies. Donc c'est un atout de plus. Je ne sais pas si c'est ça qui fera que on retrouvera un engouement. Certains vont y venir pour ça. D'autres vont préférer un retour à la nature en laissant de côté toutes ces technologies. Mais on fera l'agriculture de demain avec tous ces modèles-là qui arriveront à cohabiter.
Jeanne Huy, c'est justement une promesse de plus ? Faire venir les jeunes ?
Oui, certainement. C'est sûr qu'il y a, voilà, il y a dans notamment les entretiens que j'ai pu faire, mais aussi que d'autres chercheurs et chercheuses ont fait, il y a vraiment une idée de revalorisation de la profession par ces technologies-là. Et en fait, il y a un peu l'idée, en fait, de renouer avec l'image de modernité de l'agriculture et de répondre aussi à toutes les controverses publiques qui touchent le métier. Et notamment, voilà, on pense aux controverses environnementales, aux questions de glyphosate ou de pollution aux nitrates, ce genre de choses qui ont quand même qui ont remis le secteur agricole sur le devant de la scène publique et pas forcément d'une façon extrêmement simple à gérer.
Justement, quoi, par rapport à ça, quand vous disiez que ça avait, il y a eu des controverses, et puisqu'on parle justement d'attractivité, on se rappelle aussi des étudiants d'AgroParisTech qui récemment avaient fait justement une déclaration en reparlant d'une sorte de quête de sens par rapport à leur métier. On les écoute.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, développer des énergies dites « vertes » qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde.
Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme.
Thomas Borel, j'imagine que quand vous avez entendu ces différents étudiants prendre la parole, puisque là on en a entendu deux, mais ils étaient nombreux, c'est un discours qui résonne du côté de l'Atelier Paysan ?
Oui, tout à fait. Une bonne partie de la critique qu'il porte, que ce soit sur la perte de sens, sur la façon effectivement de sauver un système capitaliste ou industriel par certaines solutions technologiques, et ou encore les conséquences à l'autre bout de la planète qu'on voudrait ignorer, tout ça effectivement c'est un diagnostic qu'on partage. Simplement, nous après on a quelques propositions qui permettent peut-être d'entrevoir une autre forme d'agriculture, que ce soit sur les questions de mise en concurrence des agricultures, que ce soit sur la désescalade technologique, que ce soit sur l'alimentation. Donc on, dans notre manifeste que vous avez cité en introduction, il y a aussi ces prolongements-là.
Une critique que l'on peut aussi parfois entendre par rapport à l'agroécologie, je l'ai dit en préambule, 8 milliards d'individus, on est de plus en plus nombreux, plus en plus nombreux, on a des tensions de toutes parts. Est-ce que justement cette agroécologie, elle peut être utile, elle peut être pertinente par rapport à cette échelle-là qui est de plus en plus importante? En gros, est-ce qu'elle peut permettre de nourrir massivement? Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut massivement nourrir la population? Mais est-ce qu'elle peut subvenir justement aux besoins de la planète qui sont de plus en plus conséquents?
On n'a pas actuellement un problème de production qui permet le problème de nutrition dans le monde. C'est posé plutôt par de la mise en concurrence des agricultures, c'est posé par des problèmes commerciaux, c'est posé par des problèmes économiques, politiques, et n'est pas du tout par un problème de production. Donc on se leurre en pensant qu'il va falloir produire forcément plus. Par contre, on a des travaux qui montrent que, y compris repris par la FAO par exemple, déjà depuis 2007, qui dit oui, l'agroécologie peut nourrir le monde, mais ça pose quelques conditions. Ça pose la condition de modifier le régime alimentaire, ça pose les conditions aussi de changer les modes d'organisation pour avoir moins de gaspillage, et encore une fois, ça pose la question de l'organisation économique pour pas mettre en concurrence les paysans des pays qu'on dit souvent du Sud, en tout cas d'un certain nombre d'autres pays du monde, avec des agricultures ultra mécanisées et souvent subventionnées et qui peuvent écraser les autres. Donc on n'a pas ce problème-là. Et si vous permettez, à l'inverse, l'agriculture industrielle ne pourra pas nourrir le monde. Elle le démontre déjà, puisqu'en fait, elle détruit l'environnement au fur et à mesure qu'elle avance. Elle détruit la paysannerie, mais elle détruit des ressources en eau, elle détruit des ressources en sol. Rien qu'en France, on a un cinquième des terres qui sont frappées d'érosion, et les pratiques culturales et des machines de plus en plus grosses et un certain nombre de l'emploi, y compris d'engrais de synthèse, favorisent ces processus-là. Donc on est en train de détruire la capacité future à produire. Et puis, de la même manière, les ressources fossiles et les ressources en minéraux qui sont nécessaires pour toute cette mécanisation sont aussi limitées, on le sait. Donc l'agriculture industrielle ne pourra pas le faire. Toute la question, c'est combien de temps on va mettre avant de changer de braquet.
Changer de braquet qui semble pas, justement, quand on a écouté les propos de Julien de Normandie, mais qui est certes un ancien ministre de la Culture, mais la ligne continue, semble pas effectivement l'axe pour l'instant des politiques publiques. C'est ce que vous disiez justement, Jeanne-Louis, aussi tout à l'heure, dans cette promesse que le progrès à tout craint, que l'innovation finalement est la seule issue possible et donc souhaitable.
Tout à fait. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de remarquer que ce discours autour du numérique au secours de l'agriculture et notamment au secours de l'environnement permet de réintégrer en fait toutes les critiques citoyennes, sociales et militantes qui ont été faites face au modèle agricole industriel. Et donc, il y a vraiment une forme de réintégration de cette critique-là en présentant les outils numériques comme une solution, si ce n'est la solution, aux pollutions environnementales causées par le secteur agricole. Et ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est que cette promesse-là environnementale des technologies numériques dans la littérature académique qui s'intéresse à ces questions et qui essaie vraiment de mesurer quel est l'impact réel de ces économies d'engrais, de ces économies de pesticides, de ces optimisations en fait par les technologies numériques à leur donner, cette littérature académique en fait est bien en peine d'arriver à vraiment trouver un impact significatif et un apport significatif de ces technologies numériques pour répondre aux questions environnementales. Et en fait, tout dépend du coup, quelle est la définition de l'environnement qu'on prend Est-ce que, par exemple, c'est mesurer la qualité des écosystèmes cultivés, la qualité environnementale de la biodiversité? Et en fait, il y a d'autres définitions de l'environnement auxquelles répondent ces technologies numériques, et notamment qu'a cité M. Biespéré, qui est la question de la traçabilité des pratiques pour répondre notamment à des cahiers des charges environnementaux des entreprises agroalimentaires. Mais on est quand même ici bien loin de la question, voilà, encore une fois, de la qualité des écosystèmes cultivés ou d'une lutte active contre les pollutions aux nitrates ou la destruction de la biodiversité.
Henri Biespéré, depuis le début de cette émission, on parle justement beaucoup de traçabilité, on parle beaucoup de data, de données. On voit également que les GAFAM investissent de plus en plus dans ce secteur, que ce soit Alphabet ou encore Microsoft qui multiplie de multiples partenariats et accords. Vous qui avez parlé de ces données, est-ce que là, il n'y a pas aussi un risque de voir les GAFAM préempter, prendre cette donnée, en faire un usage commercial et puis une certaine forme d'opacité. Vous l'avez dit, la donnée, elle est importante, mais encore faut-il y avoir accès, encore faut-il savoir comment elle est traitée, enfin, encore faut-il savoir comment elle est stockée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là deux enjeux, à la fois de souveraineté des outils et en même temps de dépossession potentielle de la donnée, de la data, donc de cette intelligence numérique?
Alors, bon, effectivement, il y a un risque. Vous me posez une question. Moi, j'aimerais, enfin, je voudrais pas qu'on oppose le choix du système d'agriculture de demain est indépendant de savoir si on a besoin ou pas du numérique, de la mécanisation, de la robotisation. Le choix de système, tout système pourra ou pas utiliser les nouvelles technologies, la collecte de données, etc. Il vient d'y avoir quelques mots qui ont été prononcés. On a une description de l'agriculture et une approche de l'agroécologie qui est une approche qui a été citée, qui est plutôt militante, idéologique, idéaliste même, je dirais, moi qui me plairait en tant que intellectuellement, mais qui n'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Et l'agroécologie telle que définie, telle que portée par Stéphane Le Foll, telle que définie par l'INRA, n'est pas celle qui a été donnée tout à l'heure, quoi. Et l'agroécologie, moi aussi, je la revendique, nous aussi à la FNSEA, on la revendique comme étant l'agronomie, l'économie, donc avec toutes les notions, bien sûr, de performance, bien sûr, de gain de productivité, sinon on va sur des coûts de production exponentielle et donc des prix d'une alimentation qui sera inaccessible pour la plupart de nos concitoyens. Le retour à la terre de millions de gens pour diviser les exploitations qui sont aujourd'hui à petites structures, moi je n'y crois pas. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine ne se pose pas toutes ces questions-là. Il dit « Vous voulez à manger ?» vous voulez regarder comment je produis ou vous voulez surtout des kilos de blé ?» Les gens disent « On veut du blé ». Et je constate qu'aujourd'hui, le geste qu'il a fait vers l'Afrique, il a dit « Je vous envoie des bateaux d'engrais ». Il n'aura pas dit « Surtout, essayez de produire sans engrais, faites de l'agriculture biologique ». Donc, le monde dans lequel on est, la planète sur laquelle on vit, oui, il faut en prendre soin, oui, il faut aller vers un modèle qui soit plus économe en intrants, je le redis. Les nouvelles technologies ne seront pas la seule opportunité. Il va falloir revenir vers plus d'agronomie, une meilleure reconnaissance des sols. Oui, il faudra sans doute regarder de quelle manière on peut stocker de l'eau dans les sols et pas que dans des réserves, mais aussi dans des réserves parce qu'on en aura aussi besoin. Donc c'est tout ce mélange-là. Et j'ai l'impression que là, ce soir, dans les propos, on a l'air de dire qu'il y a une agriculture technologique qui forcément va aller vers de l'industrialisation. Personne n'a envie de voir les feedlots américains se reproduire en France. Il n'y en a aucun, au jour où je parle, qui existe sur le sol français, et il n'y a aucune politique agricole voulue par la FNSEA qui veut aller vers là. Par contre, moi, je constate que la viande issue des feedlots, elle est mangée par quelqu'un sur la planète. Donc, il y a bien des gens qui sont peut-être moins regardants, ou je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas. Voilà. Et on a besoin d'adresser, enfin, de regarder aussi ce qui se passe réellement. Après, on peut rêver d'un monde idéal, mais nous, on est pragmatiques à la FNSEA, et on veut accompagner des agriculteurs vers une agriculture qui soit viable et vivable pour eux. Et encore une fois, elle n'est pas forcément grande, grandissante, inaccessible, inabordable, etc. Je constate que même des maraîchers qu'on installe sur 3 hectares, c'est souvent des collectivités locales qui achètent le foncier et qui construisent quelquefois même les bâtiments pour qu'un maraîcher extérieur, non issu du milieu agricole, puisse s'installer. Donc ce n'est pas parce que les fermes sont grandes qu'elles sont difficilement reprenables, c'est parce qu'il est quelquefois difficile à la fois d'investir sur l'outil de travail, sur le foncier, et en même temps de préparer son et d'avoir un revenu correct. Alors toutes ces données qui s'échangent, effectivement, à la FNSEA, on a bien pensé que ça représentait aussi un danger pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'on a mis sur pied une labellisation, une charte Data Agri, qui justement labellise tous ces nouveaux outils en garantissant, pour résumer en deux mots, en garantissant que l'agriculteur reste maître de ses données. Donc il peut à tout moment dire « Monsieur le fabricant de robots de traite, j'ai besoin de mes données pour l'alimentation de mon troupeau, donc vous allez me les restituer. » Voilà. Dans deux ans, je change mon robot, je change de maison, eh bien je peux récupérer toutes mes données et les transférer de l'autre côté. Donc c'est de garantir que l'agriculteur à tout moment peut dire « Stop, je ne veux plus que vous collectiez mes données. » Ou si vous devez vous-même ces données vous en servir pour faire du business à l'autre bout de la planète, vous devez m'en informer et je dois vous donner
l'autorisation ou pas. Voilà, on a compris effectivement ce vers quoi vous voulez aller pour avoir une plus grande réglementation, un usage contrôlé de ces données. Après que vous ayez donc effectivement redonné votre point de vue en parlant d'utopie sur un certain modèle. Lui aussi, il est utopique. C'est notre chroniqueur Marcus Dupont-Bénard qui nous a rejoint. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
Qui va consacrer donc ce soir sa chronique à la sixième extinction.
Et oui, on commence par un chiffre. 69% des espèces de vertébrés auraient disparu en 50 ans. C'est le chiffre de l'alerte rouge pour la planète lancée par le nouveau rapport 2022 Living Planet de la WWF. Et en réalité, cette crise du vivant est bien plus globale encore. Il y a même un terme, la sixième extinction de masse.
Alors pourquoi sixième ?
Eh bien, il y a un taux normal de disparition d'espèces sur Terre. C'est la marge de la vie. Mais une extinction de masse, c'est la perte des trois quarts des espèces lors d'une courte période géologique. C'est déjà arrivé par le passé, cinq fois, comme pour les dinosaures. Sauf que, eh bien, justement, on vit en ce moment même un effondrement accéléré de la biodiversité au-delà du fameux taux normal. Des espèces sont déjà éteintes, d'autres sont en danger critique. Les vertébrés sont concernés, donc mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens. Mais ça va au-delà. Une étude de 2020 montrait qu'un quart des espèces d'insectes auraient déjà disparu en 30 ans. Et pour bien comprendre ce sujet, je vous invite à lire « L'apocalypse des insectes », un ouvrage coup de poing pour comprendre comment ce petit monde si important est menacé.
Et quelles sont donc les causes de cette sixième extinction, Marcus ?
La spécificité de la sixième extinction, c'est que la cause est humaine. On peut citer d'abord le changement d'utilisation des sols. Notre façon de cultiver, de récolter, joue sur les habitats d'espèces. C'est en partie l'objet de cette émission. Mais il y a aussi le changement climatique, avec un impact avéré, je dis bien avéré, sur la survie de la biodiversité qui ne parvient pas à s'adapter rapidement, suffisamment rapidement. S'ajoute la pollution qui détériore les écosystèmes et toutes les pollutions. Avez-vous déjà songé combien la pollution lumineuse des villes affecte les lucioles ? Eh oui, les lucioles utilisent leurs flashs lumineux pour se reproduire, donc ça interfère avec leur mode de vie.
Voilà, on y pensera maintenant quand on verra cette pollution lumineuse. Ça fait peur quand même ce mot d'extinction, Marcus, est-ce qu'il y a un peu d'espoir tout de même ?
Oui, toujours dans les chroniques, François. Grâce, en l'occurrence, aux efforts de conservation et de restauration des écosystèmes. Et justement, chez Numérama, on a lancé un podcast appelé la sixième extinction qui vient explorer cette crise du vivant. Le premier épisode raconte la folle histoire du sauvetage d'une espèce, un oiseau appelé Kakapo. Tout le podcast est écrit et narré par la brillante vulgarisatrice scientifique Marie Trébert. Justement, écoutez-la en parler.
L'histoire du Kakapo aurait pu être une histoire d'extinction, mais elle incarne cette puissance qu'a la conservation des espèces et l'impact qu'a l'amour du vivant lorsqu'on lui porte attention. Lorsqu'on tend l'oreille pour l'écouter, lorsqu'on est curieux et qu'on s'intéresse à sa cause. Le Kakapo n'est pas encore sauvé, il est même dépendant de l'humain dans sa conservation, mais petit à petit, on espère que l'espèce retrouvera son autonomie pour l'avoir retrouvé son habitat d'origine et trouver un équilibre dans ses futurs écosystèmes.
Et comme le dit Marie Trébert, donc, pour raviver la flamme du vivant, il faut y porter de l'intérêt et de la curiosité. En fait, il faut autant qu'on change de pratique que de regard.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard. Et donc j'imagine que ce podcast sur le Kakapo et les autres sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et même en natif sur notre site.
Voilà, merci Marcus pour cette envolée ce podcast que vous nous proposez. Justement, pour reprendre les mots de Marcus, il nous dit qu'il faut changer autant de pratiques que de regards. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas ce soir, d'explorer les différentes pratiques et les différents regards. L'émission s'appelle « Le meilleur des mondes ». Thomas Borel, dans « Le meilleur des mondes », qu'est-ce qu'il faudrait pour justement continuer à avoir cette lueur d'espoir ?
Eh bien, peut-être ne pas avoir besoin d'une masse de données pour avoir une traçabilité alimentaire. On n'a pas besoin d'une traçabilité si le yaourt ne fait pas 4000 km. Donc si on arrive finalement à concevoir notre alimentation différemment, on a pas ce besoin de données. Et puis, pour répondre à votre question, ce serait aussi de concevoir des changements de pratiques qui ne sont pas à la marge d'un système dominant. Donc c'est là où on ne se rejoint pas, c'est un des points de désaccord avec Monsieur Biasperé, c'est sur la coexistence de différentes agricultures. On ne va pas avoir une réserve d'Indiens d'un côté avec certaines pratiques vertueuses et d'autres à côté qui ont fait, et ça il faut le reconnaître, les agriculteurs ont fait ce qu'on leur a dit de faire et qui ont des pratiques qui finalement continuent d'avoir des impacts graves, y compris pour eux-mêmes.
Merci beaucoup, Jeanne-Louis. En un mot, dans le meilleur des mondes.
Nous avons d'autres choix et ce sont des discussions politiques, scientifiques et citoyennes à avoir.
Merci beaucoup et merci à Henri Biasperé d'avoir été également dans cette émission avec Thomas Borel et Jeanne-Louis sur la manière dont on peut et on doit repenser l'usage des technologies dans le monde agricole. Merci à Juliette Deveau pour la préparation de cette émission et Louise Robert, notre stagiaire. Merci à la réalisation Perret Legras et à la technique, c'est Ludovic Auger. Le meilleur des mondes, c'est terminé.